Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 5 juillet 2016. Au sommaire ce soir.
Une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ougandais ADF fait au moins 9 morts en territoire de Beni, dans l'est de la RDC.
Au moins 20 morts dans les affrontements à Bambari, dans l'est de la République centrafricaine.
Pour la première fois depuis des décennies, un chef de gouvernement israélien visite l'Afrique subsaharienne. Benjamin Netanyahou est aujourd'hui au Kenya, après une escale en Ouganda.
Le FBI met fin à son enquête sur les emails d'Hillary Clinton, l'accusant de négligence, mais ne recommande pas de poursuite pénale contre la candidate démocrate.
Euro 2016, le dernier carré entre en scène demain avec le match Portugal-Pays de Galles.
Mais d'abord, le journal.
Ici Gabi Dorsil et Morgane Guiriec. Au moins 9 civils tués et des biens emportés. C'est le bilan d'une nouvelle attaque à Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les assaillants présumés, des rebelles ougandais, ont fait incursion dans le village de Tenambo, tuant les civils alors qu'ils étaient encore au lit. La population reproche aux militaires déployés à proximité de n'avoir pas pris des mesures préventives quand ils ont été alertés. Notre correspondant à Goma, Charlie Kasereka, fait le point.
Les assaillants ont profité d'une forte pluie cette nuit pour s'infiltrer dans les villages et directement commencer à tirer sur tout ce qui bougeait sur leur passage, laissant au moins 9 civils morts, dont 5 femmes. Un bilan provisoire que les porte-parole de l'armée congolaise dans la zone confirme et signale aussi la mort d'un assaillant dans la poursuite que les FARDC ont effectuée après l'attaque de l'aube dans les villages de Tenambo, à quelques 2 kilomètres de la cité de Ouicha dans les territoires de Beni. Une association de défense des droits de l'homme œuvrant à Ouicha a fait savoir que plusieurs familles ont rejoint la cité de Ouicha et d'autres se seraient dirigées jusqu'à Beniville par peur. La Convention pour le respect des droits de l'homme, CRD, dit avoir reçu des témoignages de la population qui aurait alerté les militaires FARDC la veille de cette attaque, mais leurs informations n'ont pas été prises en compte. Jusqu'à cette soirée, certains corps des victimes étaient encore sur place et selon certaines sources, les enterrements pourraient intervenir dans les heures qui suivent. Le lieutenant-colonel Marc Azoukai parle d'un mode opératoire qui utilise souvent la rébellion d'islamistes ADF qui aurait déjà fait plus de 1000 morts parmi les civils dans la région de Beni. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
En Centrafrique, des affrontements ont opposé à Bambari, dans le centre du pays, les éléments de l'Union pour la paix en Centrafrique à ceux de Mahamat Faya. Ce dernier ainsi que 6 généraux ont fait défection au sein de l'UPS, une faction de l'ex-Séléka dirigée par Ali Daras. On dénombre une 20aine de morts de part et d'autre, a déclaré un habitant de Bambari qui a requis l'anonymat.
Depuis hier, aux environs de 7 heures, il y a eu affrontement entre les factions Séléka. Donc, il y a 5 généraux parmi le Séléka du général Darassa qui ont fait défection. Donc, c'est par rapport à ça que les éléments de Darassa ont lancé une ultimatum, soit disant, ils demandent à ces généraux de quitter leur base. Et c'est de là que tout a commencé. Donc, il y a eu échange de tirs avec de l'arme lourde et des armes légères dans la ville.
Et quel est le bilan de ces affrontements?
Il y a eu plus de 20 morts et plusieurs blessés. Pour le moment, la population vit dans la peur et ils sont sur le site de déplacer. Donc, tout le monde vit avec la peur d'une reprise des hostilités.
Y a-t-il eu des morts du côté de la population?
Bon, ça, j'ignore, mais on a totalisé seulement 20 morts donc, parmi les deux factions de l'UPC. Donc, 20 morts et il y a des blessés.
Pour l'instant, la situation est calme à Bambari.
La situation est calme, mais la population vit dans la plus chaude. Ça fait d'un moment à l'autre, ça peut recommencer.
Un habitant de Bambari en RCA, joint par Félix Yepassi Zembrou.
Risque d'attentat à la fin du Ramadan. Les États-Unis mettent en garde au Nigeria. Des groupes associés à des activités terroristes pourraient préparer des attaques contre les étrangers à Lagos durant la fête de l'Aïd al-Fitr.
Génocide rwandais, le procès de Tito Barahira se poursuit à Paris. L'avocat de l'ancien bourgmestre plaide l'incertitude et le doute raisonnable. Jugé pour crime contre l'humanité et génocide, la perpétuité a été requise à l'encontre de Tito Barahira. Maître Philippe Méliac a décrit un homme gravement malade et au bout du chemin.
Grève au Zimbabwe. Corée, les fonctionnaires protestent contre le non-paiement de leur salaire en juin. Des enseignants de nombreuses écoles d'Harare sont restés chez eux. De même, des fonctionnaires ne se sont pas présentés dans leurs bureaux, selon des syndicats qui ont appelé à la grève.
L'Algérie célèbre aujourd'hui 54 ans d'indépendance. L'occasion pour le président Abdelaziz Bouteflika d'effectuer sa première sortie publique depuis un an en se recueillant sur la tombe des martyrs de la guerre d'Algérie.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Deuxième jour de la tournée historique de Benjamin Netanyahou en Afrique subsaharienne. Le premier ministre israélien a promis une coopération accrue avec l'Afrique en matière de lutte contre le terrorisme. Bagassi Koura.
Depuis le Kenya, un des rares alliés d'Israël sur le continent africain, Benjamin Netanyahou a déclaré que l'Afrique n'a pas meilleur ami que l'État d'Israël quand il s'agit de besoins pratiques sur la sécurité et le développement. Qualifiée d'historique, la tournée de 4 jours qui a débuté en Ouganda et se poursuit mercredi au Rwanda et jeudi en Éthiopie est la première d'un chef de gouvernement israélien en Afrique subsaharienne en plus de 30 ans. Le premier ministre israélien voyage avec 80 hommes d'affaires et a conclu des accords avec le président kenyan en matière de gestion de l'eau, de santé et d'immigration. Israël cherche surtout à s'assurer le soutien des pays africains dans les institutions internationales où l'État hébreu fait l'objet de vives critiques suite à l'occupation des territoires palestiniens ou à cause de ses activités nucléaires.
L'Arabie Saoudite a subi hier 3 attaques terroristes, dont un attentat suicide sans précédent près de la mosquée du prophète à Médine. Idriss Fall.
L'attentat a coûté la vie à 4 gardes de sécurité à Médine, deuxième ville sainte de l'islam après la Mecque. Un kamikaze s'est fait exploser dans un parking alors que les forces de sécurité tentaient de l'intercepter. Le comité des oulémas saoudiens, la plus haute autorité religieuse, condamne les renégats qui ont violé tout ce qui est sacré. Al-Azhar, la plus haute autorité de l'islam sunnite basée au Caire, rappelle la sacralité des lieux saints comme la mosquée du prophète. Même son de cloche chez les chiites à Téhéran, la grande rivale de Riyad. Mohamed Javad Zarif, chef de la diplomatie iranienne, a déclaré qu'il n'y a plus de ligne rouge pour les terroristes. Les talibans afghans, connus pour leur extrémisme, ont eux aussi dénoncé un acte d'inimité et de haine qui ne peut être acceptable ou tolérable.
Le ministre irakien de l'Intérieur a offert sa démission suite à l'attaque dévastatrice dimanche à Bagdad. Mohamed Ghaban a transféré toute autorité à son adjoint en attendant la réponse du Premier ministre Haider al-Abadi. M. Abadi lui-même fait l'objet de la colère du public depuis cette attaque qui a fait au moins 210 morts. Le groupe État islamique en a revendiqué la responsabilité.
Lutte contre le terrorisme, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné 4 dirigeants présumés d'une cellule djihadiste à des peines allant de 8 à 16 ans de prison. La cellule de Verviers, démantelée en janvier 2015 en Belgique, a été considérée comme une ébauche pour les auteurs des attentats de Paris.
Le FBI, la Sûreté fédérale américaine, recommande au département de la justice de ne pas poursuivre Hillary Clinton pour usage d'un serveur privé pour des messages classifiés secrets alors qu'elle était secrétaire d'État. Michel Joseph.
Le directeur du FBI, James Comey, a indiqué que l'enquête sur l'affaire des emails de Mme Clinton a pris fin et que son rapport sera acheminé à la ministre de la Justice, Loretta Lynch, poursuivie. Une action en justice semble improbable, vu la recommandation de James Comey. Ce dernier a néanmoins fustigé la négligence de Mme Clinton. Les enquêteurs n'ont trouvé aucune preuve qu'Hillary Clinton avait intentionnellement effacé des messages électroniques relatifs à son travail. C'est l'opinion de M. Comey qu'aucun procureur raisonnable n'engagerait des poursuites criminelles sur la base de ce rapport d'enquête. Il y a eu erreur de jugement, a-t-il conclu, ni plus ni moins.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. On passe au sport à présent dans cette émission avec le journal de l'Euro avec Nicolas Pineau. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgan.
J-1 avant la première demi-finale Portugal-Pays de Galles.
Coup d'envoi 19h temps universel à Lyon. un duel entre deux sélections, mais aussi entre deux hommes coéquipiers au Real Madrid, à savoir Cristiano Ronaldo et Gareth Bale, le meilleur joueur gallois, qui refuse de réduire cette demi-finale à ce mano à mano. Après avoir fait déchanter la Belgique, les Gallois et leur collectif généreux peuvent-ils rééditer la surprise? C'est le coup de sifflet de Jules Valentin Gouy.
Bonjour. La plus grande compétition des nations d'Europe s'achemine irrésistiblement vers son épilogue, avec au menu, pour les demi-finales, un carré d'as totalement inattendu. Et le champion du monde allemand et le pays organisateur, la France, ex-champion du monde et d'Europe, sont indiscutablement à leur place dans le casting final, en compagnie d'un Portugal éternel outsider. Le caneton noir de la prouvée est incontestablement le pays de Galles. C'est sans grâce qui s'invite sans façon à la table des grands et confirme qu'un petit pousset peut en cacher un autre. La sensation islandaise masquait l'irrésistible ascension des Gallois, abonnés absents dans les grandes compétitions depuis le quart de finale de Coupe du Monde perdu contre le Brésil de Pelé en 1958. Pourtant, les Gallois ont envoyé des signaux forts. Une belle organisation défensive, un jeu de contre redoutable, des déboulées vertigineuses exploitées avec lucidité par des attaquants libérés de tout complexe, le tout avec à la baguette un leader généreux, Gareth Bale, qui a su mettre à la disposition de l'équipe sa science des coups de pied arrêtés. Les résultats n'ont pas tardé et voilà le pays de Galles à un match de la finale de l'Euro 2016. Comme la Grèce en 2004, le Portugal qui se trouve sur son chemin a la possibilité de valider ou d'invalider cette éclatante fin de parcours. Qui dira encore que l'histoire ne se répète pas? À demain.
L'autre demi, c'est jeudi, une finale avant l'heure entre la France et l'Allemagne.
Le sélectionneur allemand Joachim Löw a affirmé hier en conférence de presse qu'il redoutait le mental et la force des Bleus qui vont être portés par leur public à Marseille. Lors de ce match, on suivra notamment l'un des hommes forts de l'équipe de France, buteur à deux reprises face à l'Islande, Olivier Giroud. Deuxième au classement des buteurs avec trois réalisations, le joueur d'Arsenal fait taire les nombreux détracteurs qui fustigeaient sa présence dans le groupe. Retour sur les récentes performances d'Olivier Giroud avec Christian Mpanzu.
À l'annonce de son nom dans la liste des 23 de Didier Deschamps, Olivier Giroud a tout de suite dû accepter le rôle du mal-aimé de la sélection. Critiqué, voire même moqué pour sa maladresse devant le but, Giroud a l'étiquette du joueur chanceux. Chanceux car l'habituel titulaire Karim Benzema n'a pas été sélectionné suite à ses ennuis judiciaires, mais aussi car la concurrence au poste de numéro 9 est très faible en équipe de France. Le public français avait plébiscité Hatem Ben Arfa, plus technique et plus spectaculaire. Mais Deschamps a tenu tête à tous ses détracteurs en mettant en avant les statistiques de Giroud sous le maillot d'Arsenal. 27 buts cette saison. Certes, moins talentueux que d'autres joueurs au même poste, Giroud s'appuie sur sa taille et sa puissance pour gêner les défenseurs. Grâce à ces deux atouts, l'ancien joueur de Montpellier est deuxième au classement des buteurs de 7 euros avec 3 réalisations et pourrait encore être décisif face à l'Allemagne ce jeudi. Depuis Paris, Christian Mpanzu pour VOA Afrique.
Le reste de l'actualité sportive, en bref, et on commence par le Tour de France cycliste.
Oui, l'allemand Marcel Kittel de l'équipe Etix Quickstep a devancé d'extrême justesse Brian Coquard lors du sprint ayant ponctué l'étape la plus longue de ce Tour 2016 entre Saumur et Limoges, 237 km. Le Slovaque Peter Sagan de l'équipe Tinkoff reste en jaune.
Le tennis à Wimbledon, on parle des sœurs Williams.
Serena Williams, numéro 1 mondial et tenante du titre à Londres, sera au rendez-vous des demi-finales. L'américaine a éliminé la russe Anastasia Pavlyuchenkova en 6-4-6-4. Et puis à 36 ans, l'aînée des sœurs Williams, Vénus, 8e joueuse mondiale, a toujours des jambes. Elle l'a prouvé aujourd'hui en s'imposant face à la Kazakh Yaroslava Zvedova, 96e joueuse mondiale. Le score 7-6-6-2. On rappelle, Morgan, que Vénus Williams est diminuée par une maladie génétique qui la prive régulièrement de son énergie. L'aînée des sœurs Williams n'avait plus atteint ce stade de la compétition en grand chelem depuis l'US Open 2010.
C'était le journal de l'Euro présenté par Nicolas Pinault.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Linden.
Le Rwanda a multiplié par plus de 10 la taxe d'importation sur les vêtements et chaussures de seconde main provenant principalement d'Europe et d'Amérique du Nord. D'après Kigali, c'est pour promouvoir l'industrie textile locale. Ce marché juteux crée une concurrence qui a complètement tué l'industrie textile des pays en développement, avait estimé à la mi-juin le ministre rwandais du Commerce, François Kanimba. En Guinée, Rio Tinto a annoncé la mise en veilleuse pure et simple du méga-projet de développement de la mine et des infrastructures de ciment doux. Cet arrêt s'explique par la baisse des prix et l'excès de promotion des minerais de fer sur le marché. L'accord entre le gouvernement guinéen et Rio Tinto avait été signé le 26 novembre 2015. Le Maroc veut attirer plus d'investisseurs, d'où cette opération de charme de Moulay Hafid El Alami, ministre marocain de l'Industrie. 0% d'impôt sur 5 ans pour les industries en création, c'est l'une des facilités qu'offre le nouveau plan de réforme de l'investissement. De nouvelles mesures fiscales pour attirer les investisseurs et mener à bien le plan d'accélération industrielle du Maroc sont également prévues.
Morgane Gaillac et chérubin Gaby Dorcy en votre compagnie, place au dossier du jour. On enchaîne sur le Burundi.
Oui, le dialogue de sortie de crise, relancé en mai après plusieurs mois de blocage, doit se poursuivre à partir de samedi à Arusha, en Tanzanie. Le SENARED, principale coalition de l'opposition en exil, n'a pas encore reçu d'invitation officielle. La coalition avait pourtant boycotté le premier round, mais avait rencontré par la suite le facilitateur tanzanien Benjamin Mkapa dans la capitale belge. Pour réaction, Eric Manirakiza a joint à Bruxelles le porte-parole du SENARED, Pancras Chimpaye.
Bah, le SENARED est mal placé pour répondre à une invitation, viendra ou viendra pas, parce que ce n'est pas au SENARED de rédiger les invitations. Je pense que cette question est beaucoup plus la médiation qui devrait répondre. Mais nous continuons à espérer que le SENARED est une force, est une partie extrêmement importante dans le conflit burundais, qui, dans la crise burundaise qui est en cours, que son absence autour de la table serait un peu irrationnelle.
Selon des informations recueillies auprès de la médiation, le médiateur aurait invité des membres du SENARED en tant que leur parti d'origine. Auriez-vous eu ces informations?
Oui, nous avons effectivement des collègues qui nous ont informé que nous avons reçu des invitations individuelles. Pourtant, au niveau du SENARED, nous avions très bien précisé que nous ne devrions pas avoir des invitations des personnalités, des partis, des organisations pris isolément si nous voulions une invitation du SENARED comme une seule entité.
Est-ce que tous les membres du SENARED vont respecter ce mot d'ordre?
Vous savez, dans la situation dans laquelle le Burundi se trouve, la crise qui mène le pays, l'oligarchie qui est à Bujumbura, qui tue, qui emprisonne, qui exile, pour en venir à bout, il faut constituer une force. Le SENARED en est une.
Le médiateur a rencontré la plateforme SENARED récemment à Bruxelles. Pourquoi, selon vous, il hésite à vous inviter en tant que tel à Arusha?
Nous pensons que ces hésitations procèdent beaucoup plus de la menace brandie par Bujumbura. Nous pensons que c'est dans la gestion de cette menace que probablement le facilitateur trouve ses hésitations.
Vous pensez qu'il est dépassé par les événements?
C'est une personnalité politique qui est à la hauteur, qui maîtrise très bien les dossiers. Nous pensons beaucoup plus qu'il fait beaucoup plus preuve de tact.
Pancras Chimpaye à Bruxelles.
Numéro exceptionnel de Washington Forum sur l'esclavage, qu'il soit ancien ou moderne, nous serons en présence de Biram Dah Abeid, figure mauritanienne de la lutte contre l'esclavage, libérée le 17 mai dernier après 20 mois de prison, alors qu'au moins 14 membres de l'IRA, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, ont été arrêtés cette semaine à Nouakchott. Alors la Mauritanie tient-elle un double discours sur sa loi anti-esclavage? Quelle est la situation ailleurs dans le monde? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez-moi dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel. L'opposant congolais Moïse Katumbi, actuellement en séjour en Europe, a fait savoir qu'il compte regagner son pays, la RDC, rappelant qu'il est candidat à l'élection présidentielle. Inculpé dans une affaire de recrutement de mercenaires, il avait reçu du procureur la permission de se rendre en Afrique du Sud pour des soins. Au mois de mai, un mandat d'arrêt a été lancé contre lui. Moïse Katumbi a en outre été condamné à 3 ans de prison par contumace dans une affaire de vente d'immeubles. Timothée Donangmaï a recueilli la réaction de Mwembwe Kabamba, président du parti Front Patriotique, membre de la plateforme G14.
Je regrette d'abord que cette affaire ait pris le devant de la scène politique, à telle enseigne que l'essentiel pour nous qui est avoir les élections dans les délais constitutionnels et voir le président Kabila dire qu'il a terminé son second et dernier mandat. C'est ça l'essentiel pour le peuple et pour les sociales. On n'en parle pas. Et on met cette affaire de Moïse Katumbi au devant de la scène. Ça nous chagrine énormément. Et puis ça fait voir tout de suite qu'il y a une connotation politique parce que quand il a servi la majorité qu'il attaque aujourd'hui, nul n'a parlé du recrutement des mercenaires. Quand est-ce que les mercenaires sont venus? C'est au moment où il a posé sa candidature à la présidence où les mercenaires étaient là déjà avant. Vous savez, il y a toujours cette question qu'on se pose de savoir l'indépendance et la justice par rapport au système dans lequel nous vivons pour le moment.
Est-ce qu'il ne sera pas arrêté à son retour compte tenu de sa condamnation à 3 ans de prison?
Moi, je ne suis pas un baron du pouvoir pour savoir ce qu'ils sont en train de mijoter. S'ils arrêtent, le problème, c'est la répercussion au niveau de la population. Et je ne sais pas comment ça va se passer. Ça sera un élément supplémentaire qui va énerver parce que pour le moment, sur le plan social, il y a de sérieux problèmes. Il y a une dépréciation de la monnaie, il y a des difficultés de paiement des fonctionnaires, il y a des banques qui posent déjà des problèmes de faillite. Donc, il y a un mécontentement généralisé et la population est chauffée à plomb. Il suffit d'un rien pour que ça puisse créer des incidents.
On est déjà au mois de juillet et les autorités disent que la prochaine présidentielle pourrait être retardée par des problèmes logistiques. Qu'en dites-vous?
Nous, on a une date. Le 19 décembre 2016, c'est la fin du mandat de Kabila. Le 20 décembre, c'est le dernier mandat qu'il a, le 20 décembre, c'est terminé. Donc, quels que soient les interlocuteurs dans lesquels ils se sont infiltrés pour le moment, la réalité est que nous décomptons le jour et ça, c'est pas seulement à notre niveau, c'est au niveau des étudiants, c'est au niveau de la jeunesse, c'est au niveau des mamans, c'est au niveau de toute la population congolaise.
Le docteur Mwembwe Kabamba, président du parti Front Patriotique, membre de la plateforme G14, joint à Kinshasa.
VOA Afrique en RDC à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Les musulmans préparent la fête de la fin du Ramadan. Au Cameroun, cette fête se célèbre toujours en compagnie des chrétiens et croyants des religions traditionnelles africaines. Cette année, les autorités ont fermé certains segments de la frontière avec le Nigeria. La semaine dernière, 2 kamikazes ont attaqué une mosquée et un vidéoclub dans la ville de Limani au nord, faisant 15 morts et plusieurs blessés. Sur les préparatifs de la fête de ce mercredi, une correspondance de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Nous sommes au marché de Tsudi, plein de fidèles qui se préparent pour la fête de fin de Ramadan. Djibril Mahamat, vendeur de viande, dit avoir fait de bonnes affaires.
La viande, maintenant, on vend ça à 2400. J'ai amené un bœuf, voilà ce qui reste. Ouais, les femmes viennent payer ça pour la fête de Ramadan.
Femme de ménage, Adjaratou Ibrahim regrette son arrivée tardive sur le lieu du marché.
Il n'y a même pas de produits au marché. Il n'y a pas de vivres au marché.
Dans beaucoup d'ateliers, les couturiers se battent pour respecter les délais. C'est le cas d'Annette Ntemé, qui dit n'avoir accepté de coudre rien que la quantité de vêtements qu'elle pouvait coudre afin d'éviter des conflits avec ses clients.
Si déjà j'ai cousu, ça veut dire qu'on s'est entendu. Je me suis arrangée à livrer en temps, sans les pailles, sans les ensembles pailles en général.
Parmi ses clients figure Raïsa Bakari, 13 ans.
Les habits, les chaussures, comme d'habitude. Et je me suis tressée, j'ai dessiné pour être belle, comme d'habitude.
Dans certaines maisons, la nourriture est en pleine préparation. C'est le cas chez Adjaratou Bobo.
Beaucoup de choses. Le plantain, le riz, la viande, le poisson et le plantain, pommes de terre. Le poulet sera pour voir au marché. Parce qu'il y a la grippe aviaire. Je vais inviter mon ami Fadimato, Aïcha, Aïssato, Amira. C'est ouvert pour tout le monde. Ah, Barka da Salla.
Les séances de prière s'intensifient dans les mosquées, mais les autorités camerounaises prennent des précautions pour éviter des attaques des groupes terroristes Boko Haram, comme l'explique le gouverneur de l'extrême nord, Midji Yawa Bakari.
Et nous avons demandé à toute la population d'être plus vigilante et de sécuriser les lieux de prière. Nous voulons insister ici que tous les regroupements sont, jusqu'à nouvel avis, interdits.
D'habitude, beaucoup de musulmans, chrétiens et animistes célèbrent cette fête ensemble comme signe de la cohabitation pacifique. Mais les attaques de Boko Haram créent une suspicion entre les chrétiens et les musulmans. Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Vous écoutez VOA Afrique à Douala, au Cameroun, sur Radio Balafon, FM 90.2.
Quatre gardes de sécurité à Médine, en Arabie Saoudite, sont morts dans un attentat suicide perpétré hier soir devant la mosquée du prophète. Nathalie Barge a tendu son micro à l'imam sénégalais Papa Mboup, qui a rendu visite à la Voix de l'Amérique ce mardi.
C'est vraiment déplorable parce que les lieux saints sont toujours considérés comme des lieux sacrés, des lieux de sécurité. Et quand la sécurité est bafouée par ces genres d'attentats, je pense que ça perturbe le monde entier. Les musulmans, comme les chrétiens, comme les juifs, comme les personnes qui sont pour la paix, pour l'entente, pour la cohésion et pour la paix internationale, la justice, je pense, se sentent concernés et déplorent cet événement-là.
Le président de Majlis Shura, Abdallah Al-Sher, a souligné, je cite, que ce crime répugnant ne peut venir d'une personne ayant la moindre foi. Donc qu'est-ce que vous pensez de cela, notamment sur la foi de ces gens qui commettent ce genre d'attentat suicide ?
Le Coran dit que c'est un crime, plus qu'un crime, de tuer une personne. Quand on tue une personne, c'est comme si on avait tué la race humaine d'Adam jusqu'à la fin du monde. Donc je pense que le président de Majlis Shura a raison. C'est un crime qui est en dehors de l'islam et je pense que c'est contraire à la foi.
Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport au fait qu'il y ait eu cet attentat à Médine, n'est-ce pas, à la veille du Ramadan? Et parlez-nous aussi également de la fin du Ramadan de cette année.
Mais je pense que c'est déplorable qu'on ait choisi la fin du Ramadan pour faire ça. Ça doit être un moment de pénitence, un moment de recueillement, de pardon et de miséricorde et de clémence. Mais le fait qu'il nous appartient, nous musulmans, nous personnes épris de paix et de justice, de nous réconcilier, de travailler pour la paix, la justice, l'équité dans le monde et de savoir que le Ramadan, un des objectifs, c'est de permettre à l'homme de vaincre sa chair et d'en triompher. Sa chair, ça veut dire les passions, les choses mauvaises qu'il fait, tout ça, et de montrer que l'âme a pris le dessus sur la chair. Quand l'âme prend le dessus sur la chair, la personne devient stable, pacifique, adorable, pleine de compassion et pleine de clémence. Mais le Ramadan qui touche à sa fin, on vient toujours 29 ou 30 jours. Donc demain, c'est la fête de la charité, l'Eid al-Fitr, comme on dit, où l'on commémore la victoire de l'âme sur la chair. C'est un jour de festivité, de générosité, de pardon et de gaieté pour la communauté musulmane.
L'imam sénégalais Papa Mboup qui était ce matin dans nos studios à La Voix de l'Amérique.
Salut les amis, Roger Mountou, La Voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mardi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole aux auditeurs de la VOA. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
C'est la fin de cette édition. On remercie Michel Joseph et Jackson Louis à la technique. Présentation Morgane Guiriac et Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous suivez sur Facebook. Vous êtes plus de 1 250 000. On maintient la conversation. Bonsoir.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Anjamena sur 93.1 FM. Kledou FM, Bamako. Raga FM, Goma. 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.